Radio Okapi. Le journal, c'est tout de suite avec Belinda Bosuma.
La CENCO s'est dit préoccupée par la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Tchiani, et cette loi qui verrouille les postes de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Pour le secrétaire général de la CENCO, cette loi va davantage diviser le peuple. Reprise des combats tôt ce matin dans la région de Mouesso, Kasua, dans le Nord Kivu. Ils opposent le M23 aux FARDC et forces d'autodéfense. Une forte panique s'observe à Kasua et la population est dispersée dans plusieurs directions, disent des sources sur place. Et puis, l'invité de ce midi, Emmanuel Sekiyoba, conseiller politique au Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Il nous parle des sujets d'actualité tels la guerre dans l'est du pays et le comportement du franc congolais face aux devises étrangères. Madame, Messieurs, bonjour. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se disent vivement préoccupés par la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Tchiani qui verrouille le poste de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Dans une mise au point hier, le secrétaire général de la CENCO estime que cette loi menace la cohésion nationale et vote le risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser le peuple. Pour Monseigneur Donatien Cholet, la RDC est déjà suffisamment menacée par la crise sécuritaire. Ajoutez à cela une loi qui va davantage diviser le peuple. C'est toute la nation qui sera menacée suite à l'irresponsabilité politique, dit-il. Michel Kifindangoy.
Ayant dénoncé la toxicité de la loi Tchiani depuis plusieurs mois, les évêques de la CENCO s'indignent de sa programmation pour examen, alors que le bureau d'études de l'Assemblée nationale l'avait déjà rejeté avec des arguments solides. Monseigneur Donatien Cholet.
Cette loi est dangereuse à plusieurs titres. Elle menace la paix sociale parce que les personnes victimes de cette loi, ce sont des personnes portées par les communautés qui les reconnaissent comme étant les leurs. Cette loi est dangereuse même pour ceux qui sont au pouvoir parce que ça risque d'être une bombe contre eux-mêmes.
Pour le secrétaire général de la CENCO, les arguments avancés par ceux qui soutiennent cette loi ne sont pas fondés.
Et ce pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause de Congolais de père et de mère. Le sang de Mamadou Ndala est en train de crier contre cette loi-là. Mamadou Ndala, c'est un qui a versé son sang, il n'était pas Congolais de père et de mère. Les Congolais connaissent qui est qui fait quoi. Alors, à eux de juger, je ne pense pas que ce Parlement aura un tel degré de légèreté.
Monseigneur Donatien Cholet met en garde une telle initiative qui risque, en plus de la crise politique dans l'Est et dans le Congo, de déstabiliser complètement les institutions et exposer toute la nation.
Direction le Nord Kivu, des affrontements ont repris tôt ce matin dans la région de Mouesso, Kasua, dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi. Ces combats opposent les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par l'armée rwandaise contre les FARDC et forces d'autodéfense. Depuis ce matin, une forte panique s'observe à Kasua et la population est dispersée dans plusieurs directions. Cependant, dans la région de Bihambwe, c'est toujours une accalmie précaire qui s'observe ce jeudi. Certains habitants tentent de regagner leur maison, mais sans assurance, indiquent nos sources sur place. Le point avec Blaise Shindani Kambala.
C'est depuis une semaine environ que les rebelles du M23 mettent la pression dans cette région et progressent dans les agglomérations en direction de Kashuga sur l'axe Masisi-Pinga-Walikale. Des sources dans la région rapportent que ces affrontements ont suscité la psychose et la population s'est déplacée en direction des villages Ioula, Katobo, Masiza, Kalembe et d'autres dans les champs. Dans un communiqué de FARDC rendu public hier 29 mars, l'armée a dénoncé une fois de plus ces attaques des rebelles du M23 à Mouesso et qui se poursuivent vers Kashuga. L'armée a également pointé du doigt le Rwanda qui serait en train d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en faveur du M23 en RDC. Par ailleurs, la situation de Bihambwe reste incertaine, affirment nos sources. Les rebelles sont toujours retranchés sur les collines de Kasiza et Kabaya, surplombant la cité de Bihambwe, tandis que les forces d'autodéfense seraient déjà rentrées dans la cité où les deux forces se regardent en chien et chat.
Nord-Kivu toujours. Dans le territoire de Beni, la population de plusieurs entités de la chefferie de Bachou dit ne plus espérer obtenir la carte d'électeur, ce à quelques heures de la clôture de cette opération. En effet, 8 centres d'enrôlement qui ont été délocalisés de la zone il y a quelques semaines à cause des attaques des EDF ne sont pas autorisés à rouvrir les portes, cela malgré la calmie et le retour des habitants dans leur village. Cette décision aurait été prise par l'armée qui estime que les conditions ne sont pas encore réunies pour la sécurité de tous ces centres dans la zone. Saddam Patangouli, un des leaders communautaires, exprime les inquiétudes de la population au micro de Marc Marofimbo.
C'est par exemple les centres d'enrôlement des électeurs de Kanyihunga, Kitahoha, Mabuku, Mundiba, Mambingi, Ruahua, Vorondo et Butuhe. Ce sont des centres qui ne fonctionnent plus suite à l'insécurité grandissante dans la chefferie de Bachou et les autorités militaires disent qu'ils veulent que tous ces centres soient délocalisés vers Maboya. Ce qui fait que pour quelqu'un par exemple de Kanyihunga pour se faire enrôler, il sera obligé de parcourir au moins 44 kilomètres pour obtenir sa carte d'électeur. Avec la situation socio-économique que nous traversons, ça veut dire que la personne ne peut même pas trouver quelque chose en termes de transport pour lui faire parvenir jusqu'à Maboya. C'est-à-dire, obtenir la carte d'électeur devient un calvaire pour la population de la chefferie de Bachou.
Du côté de la CENI, on affirme que la situation est actuellement sous examen en vue de voir dans quel mécanisme mettre en place pour faire face à cette situation. Province du Haut-Katanga, l'Union nationale des fédéralistes du Congo compte ses morts. Ce sont les jeunes tués par balles et d'autres sont morts par noyade. Le bilan est controversé. Pour l'UNAFEC, ces incidents qui se sont produits non loin du pont Naviundu, à la limite entre les communes Kampemba et Annex à Lubumbashi, ont causé la mort de 21 jeunes et ce bilan est encore provisoire. D'autres sources indiquent que jusqu'à présent, il y a eu 12 morts et plusieurs blessés et les enquêtes se poursuivent. Des détails avec Jean Gando.
Pour l'UNAFEC, ces jeunes étaient dans leur réunion hebdomadaire lorsqu'ils ont vu surgir les militaires armés pour les disperser. Ces hommes en armes ont ouvert le feu et il y a eu des morts. D'après cette formation politique, on en compte 21. Il y en a qui ont été tués par balles et d'autres par noyade. Ce bilan est encore provisoire car il y a des familles qui continuent à rechercher les leurs portés disparus depuis ces incidents. Pour une autre source, il y a eu deux groupes de jeunes de l'UNAFEC qui voulaient chacun contrôler la perception des taxes dans les parkings toujours non loin du pont Naviundu. Ils tracassaient les passants, dont certains se sont vus ravir leurs biens. L'une des victimes a alerté les militaires positionnés à quelques encablures. Arrivés sur place, ces jeunes les ont repoussés à coups de projectiles. Dans la foulée, un des militaires a été blessé à la tête. Ses amis ont procédé par des tirs de sommation pour disperser ces jeunes en les pourchassant. Sur place, deux personnes ont succombé et d'autres étaient blessées. Pris de panique, en voyant leurs amis touchés par balles, d'autres jeunes se sont jetés dans la rivière Naviundu. On compte aussi parmi eux 12 décès, ce qui fait un total de 14 morts. Tous nos efforts pour avoir le ministre provincial de l'Intérieur sont restés vains. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Du côté du Tanganyika, des personnes arrêtées mardi dernier par des bandits armés sur l'axe Kalemie-Bendera au niveau du village Mapanda, à une centaine de kilomètres de Kalemie, ont été relâchées hier matin. D'après certaines sources, il s'agit des conducteurs des 7 motos avec des passagers qui sont tombés dans une embuscade tendue par des coupeurs de route. Les mêmes sources signalent que ces bandits armés ont conduit leurs victimes en brousse dans l'après-midi de mardi. L'administrateur du territoire de Kalemie confirme l'information et précise que les victimes ont été dépouillées de tous leurs biens et une femme aurait été violée par les malfrats. Justice. La haute cour militaire a condamné hier à perpétuité à Kinshasa 4 policiers, dont un colonel pour torture. Le colonel Samuel Mopepe, commissaire supérieur principal, Nzita Mananga, Diamasi Vimukoko et Mashaba ont été reconnus coupables de torture et ont conduit au meurtre du détenu Olivier Mpunga dans leur cachot. Le capitaine Chongo Morgan est le seul acquitté dans ce procès. Jeff Ngoy, reportage.
Outre cette condamnation, la haute cour décide également de la déchéance du colonel Mopepe et du commissaire Nzita. Elle décide aussi de la dégradation des deux autres prévenus. Trentenaire, Olivier Mpunga a été arrêté le 16 décembre 2021 pour vol de voiture à la Direction générale des renseignements et services spéciaux de la police. Son corps a été retrouvé sans vie avec des lésions un jour après son arrestation dans l'un des cachots de ses services spéciaux. La famille de la victime avait alors saisi par plainte la justice militaire sur base d'une vidéo devenue virale montrant Olivier en train d'être torturé par ses bourreaux. Au terme de plusieurs audiences en procédure de flagrance, les prévenus sont enfin écroués et condamnés ainsi à indemniser la famille de la victime, partie civile au procès, d'une somme de 80 000 $.
Parlons santé à présent. En Ituri, environ 300 personnes sont mortes de tuberculose en 2022 sur 11 796 dépistés de cette maladie. Ces chiffres ont été publiés hier à Bunia par le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la tuberculose. Face à ce défi, cette structure a lancé depuis hier à Bunia une tournée de sensibilisation. C'est notamment dans des universités de la place pour éradiquer cette maladie. Le docteur Justin Mukonko les précise que 9 zones de santé, dont celle de Bunia, sont fortement touchés par la tuberculose. Il invite la population à renforcer les mécanismes de protection en évitant des endroits clos ainsi que les contacts avec les malades. Justin Mukonkole au micro de Ezekiel Mousalia.
Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC. C'est pour, encore une fois de plus, impliquer tout le monde dans la lutte, étant donné que la lutte contre la tuberculose, c'est une lutte multisectorielle. S'il faut parler des statistiques, il faut noter que en 2022, nous avons réussi à dépister un total de 11 796 cas avec 392 décès. Commençant par le système Bunia, nous savons que ce sont des étudiants qui seront des futurs prestataires de demain. Et pour ce faire, nous demandons à la population, dès que vous trouvez un malade ou alors une personne qui tousse, allez directement au centre de santé le plus proche. La meilleure façon de lutter contre la tuberculose, c'est dépister tous ces malades qui se cachent encore à la maison et les mettre sous traitement, afin que nous puissions casser la chaîne de transmission.
Santé toujours, au Kasaï oriental, lancement ce jeudi à Mbujimayi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus d'un million d'enfants de 0 à 59 mois répartis dans 317 aires de santé sont attendus au cours de cette campagne de vaccination. D'après le médecin chef de division provinciale de la santé, la stratégie adoptée est porte à porte, c'est-à-dire que les vaccinateurs vont passer dans des ménages pour vacciner les enfants. Docteur Bonheur Chitekou demande aux parents de garder les enfants à la maison pendant ces 3 jours de campagne de vaccination.
Actualité internationale.
Nous sommes en Tunisie. Plus de 100 migrants et demandeurs d'asile se sont rassemblés mercredi devant un bâtiment des Nations Unies à Tunis. C'était pour demander leur rapatriement ou leur transfert vers un autre pays en raison du harcèlement qu'ils disent avoir subi en Tunisie. La plupart des personnes rassemblées sont originaires du Soudan et affirment avoir été persécutées par les Tunisiens depuis que le président Kais Saied s'est emporté contre les migrants d'Afrique subsaharienne le mois dernier et a dénoncé un prétendu complot visant à effacer l'identité tunisienne. Le président américain Joe Biden s'est exprimé à l'occasion de l'ouverture du 2e sommet pour la démocratie. Le chef d'État américain s'est engagé hier à verser près de 700 millions de dollars pour stopper le recul démocratique mondial et forger une alliance contre les technologies de surveillance.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Emmanuel Sekiyoba, conseiller politique au Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Avec lui, il nous parle de quelques sujets d'actualité et de l'heure, entre autres la guerre dans l'est du pays, le réajustement du gouvernement ainsi que le comportement du franc congolais face aux devises étrangères. Emmanuel Sekiyoba s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Professeur Emmanuel Sekiyoba, bonjour.
Bonjour.
L'opération d'enrôlement est en cours au Nord Kivu. Vous êtes enrôlé, professeur?
Oui, mon frère, je suis passé par là pour l'enrôlement.
C'était dans quelles conditions?
Des conditions...
Parce que nous savons qu'au Nord Kivu, il y a la guerre.
Des conditions vraiment difficiles, parce que, en tant qu'originaire de Bunagana, je suis allé m'enrôler dans le camp de réfugiés de Mugunga. Très pénible. Très pénible à voir le niveau de souffrance et de problèmes humanitaires qui se posent à ces personnes qui sont innocemment déplacées de leur village.
Parce que nous parlons de cette situation difficile dans l'est du pays. Nous savons qu'il y a la guerre, les agresseurs sont connus. On peut avoir votre réaction, professeur, par rapport à cette guerre et d'après vous, quelles sont les pistes et les solutions pour que nous arrivions à la fin de cette crise qui n'a que trop durer?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Le volume de la guerre de l'Est, c'est une guerre qui fait pratiquement honte à toute l'Afrique. Je remercie beaucoup le président de la République démocratique du Congo qui garde son souffle, surtout qu'il utilise tous les moyens possibles, la diplomatie, la guerre conventionnelle, pour essayer de bouter dehors l'ennemi qui est connu par tout le monde, que le Rwanda, et qui peut avoir des liens aussi avec l'Ouganda. Et cette guerre vient de durer. C'est une des guerres qui peut être considérée comme la guerre mondiale africaine. Beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes. Mais quelle est la solution à ce problème-là? Et ma proposition, qui peut être prise par qui que ce soit, mais c'est une proposition personnelle, je voudrais bien que les gens comprennent que l'attitude de notre président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir se battre contre ceux-là qui nous envahissent, est une attitude que je supporte. Mais dans l'avenir, il faudrait que tout le leadership africain puisse comprendre au fait que cette une guerre qui fait la honte, que tout le monde pointe le Rwanda qui nous agresse, l'Ouganda qui est en train de l'appuyer, et surtout qu'on fasse comprendre la communauté internationale que même s'ils sont derrière ces deux, le Congo ne va pas baisser les bras, nous allons nous battre jusqu'à ce que l'intégrité du territoire congolais ne soit pas touchée même par un centimètre, et que surtout les Rwandais comprennent que nous n'avons, nous les Congolais, aucun problème avec le Rwanda, et les Rwandais comme citoyens, mais que ce soit un problème avec un régime qui ne veut pas comprendre qu'au fait, ce que ce régime fait la honte à toute l'Afrique, fait la honte aux panafricanistes comme moi, et que cela doit s'arrêter.
Merci professeur. Vous savez que dernièrement, le président de la République a réaménagé son gouvernement. Quelle peut être votre lecture par rapport à ces derniers réaménagements du gouvernement de la République?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est clair que quand on lit à travers les lignes le réaménagement du gouvernement, vous allez constater que son excellence, monsieur le président de la République, a dû faire 3 changements, mais dont 2 regardent carrément la sécurité. C'est pour dire que la question de l'Est, qui continue à endeuiller les familles, à faire souffrir nos mamans, nos pères et consorts, est une question qui lui tient à cœur. Vous allez voir qu'il a changé le ministère de l'Intérieur, non pas pour dire que les autres n'ont pas travaillé, mais pour améliorer. Il a mis monsieur Bemba au Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense pour dire, écoutez, il connaît bien la guerre, il a été lui-même chef de quelques rébellions, il sait comment il va s'y prendre pour demander, obliger, exiger que ces envahisseurs qui sont supportés ou même qui sont équipés complètement par le Rwanda, c'est un message que le président voulait leur faire. Nous sommes là pour une guerre, je n'ai pas entendu un jour une balle aller au Rwanda, mais nous allons nous battre pour que l'intégrité du territoire congolais ne soit touché par personne. Et quel que soit le prix, comme le président l'avait dit, je crois que c'est un signal fort, très fort, qu'il a dû donner à la communauté internationale, la communauté nationale et les pays voisins, que le Congo n'est pas là pour baisser les bras. Maintenant, avec la présence de son excellence, monsieur le ministre de la Défense, qui est un ancien guerrier, je pense que le message est clair pour nos envahisseurs, le Rwanda, l'Ouganda, et même la communauté nationale qui le supporte indirectement.
Et qu'est-ce que vous pensez de Vital Kamerhe à l'économie nationale? Parce que ce secteur-là n'est pas épargné. Vous voyez comment le franc congolais perd sa valeur devant les devises étrangères.
Écoutez, M. Vital Kamerhe, c'est un chevronné de la politique congolaise. Il connaît, il sait travailler. J'espère qu'il va nous donner des résultats escomptés. Le dollar continue à flamber. Le franc congolais baisse de valeur. J'aimerais le voir travailler en symbiose avec d'autres secteurs de l'économie, comme le secteur agricole, les finances, comme ça, pour essayer de redresser la situation de notre monnaie nationale qui est en train de dégringoler jour et nuit.
Professeur Emmanuel Sekiyoba, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette interview.
Le conseiller politique au Forum des intellectuels congolais de l'étranger répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Pierre Diassinois. Merci d'avoir été des nôtres.